vous écoutez Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, pour son émission au Café littéraire. Oui, bonjour, vous êtes bien sur Radio B 90 FM, la radio des bonnes ondes, avec Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, pour son émission au Café littéraire. En ce mois d'octobre, il évoque la vie sauvage selon Sandrine Colette, puis un retour à la montagne avec Gaël Josse et Marion Roucheux, ensuite Le pays au-delà des mers par Baker Clean, une grande romancière anglaise, Baker Clean, et puis Échec et mat à Rome avec Antoine Choplin. Et pour finir, Plus qu'un polar, un super roman de Claire Raphaël. Voilà. Je commence donc par le premier roman, c'est Sandrine Colette, avec son roman adoré, On était des loups, qui est paru aux éditions Jean-Claude Lattès. Sandrine Colette, qui vit dans le Morvan et qui élève des chevaux, est passionnée par la nature sauvage, mêlant les animaux et les hommes qui peuvent, face à la peur, devenir fous. J'avoue que je fais une fixation sur elle, car elle a une voix unique, magistrale et glaçante lorsqu'elle montre ce que les hommes sont capables de faire. Je vous avais déjà parlé le mois dernier de ce roman « On était des loups ». Mais j'y reviens parce que je fais une fixation, comme je l'ai dit, sur elle. Elle met en scène un grand chasseur, peut-être justement de loups, mais est-ce qu'il a beaucoup ? En tout cas, il y a une certaine connivence entre ce chasseur et les loups. Il s'appelle Liam. Ce soir-là, quand il rentre des forêts montagneuses, il devine un drame. Son petit garçon, de 5 ans à rue, ne l'attend pas devant la maison comme il le fait d'habitude. Dans la cour, il découvre les empreintes d'un ours. Voilà, il y a un ours meurtrier. Et à côté, sous le corps inerte de sa femme, qui s'appelle Eva, il trouve son fils vivant. Elle l'a protégé, la vie de son fils, par son corps. Au milieu de son existence qui s'effondre, Liam, qui a travaillé 2 ans dans une scierie pour gagner de quoi se loger, se marier avec Ava, d'avoir Haru, d'avoir été formé à la chasse et à la nature par le vieil Henri, de vivre vraiment à la campagne et non pas dans une ville trop bruyante pour lui. Il s'est séparé de sa famille. Il a une certitude, ce Liam. Ce monde sauvage, qu'il connaît bien maintenant, mais ce monde sauvage n'est pas fait pour un enfant. Alors il est décidé à confier son fils à d'autres que lui. Et pour cela, il prépare un long voyage au rythme du pas de ses 2 chevaux. Je ne vais peut-être pas préciser en septembre que ces chevaux vont vraiment participer à cette aventure. Il y a 2 gros chevaux, fidèles, vraiment, voilà. Car c'est une aventure en pleine nature, puisque personne ne veut Daru. Il voit bien un oncle et une tante qui sont pourtant proches, mais ils disent, ben, Haru, c'est ton fils, tu as voulu un enfant, à toi d'assumer son éducation. Parce que c'était Eva qui faisait de l'éducation d'Haru, lorsque le père était parti chasser. Donc le père et le fils vont apprendre à vivre ensemble. Haru est terrifié parce qu'il a vu l'ours qui s'est attaqué, il a essayé, ça on le découvre dans la lecture de ce roman, de défendre, mais il n'a pas réussi et c'est Eva qui a été tuée par l'ours. Mais l'ours a été tué quand même. Terrifiée, donc, Haru saura intervenir pour sauver son père au dernier moment. Voilà. Je vous laisse découvrir comment, parce qu'ils vont trouver un personnage dangereux, malfaisant, qui va s'en prendre à Liam pour le tuer et pour récupérer Haru. Mais donc, pour finir, si ce n'est déjà fait, voilà. En lisant cette deuxième partie, en vivant cette deuxième partie du livre, au fil de ces pages, on découvre que Sandrine Colette nous plonge au sein de la nature et elle interroge l'instinct paternel et le prix d'une possible renaissance. C'est vrai que, à la fin, le père et le fils se reconnaissent. C'est vraiment un beau récit. Voilà. Puisque j'ai parlé d'ours, en lisant Animal, toujours de Sandrine Colette, qui est maintenant, qui était parue chez Jean-Claude Lattès, mais qui est maintenant en livre de poche, donc si vous ne le connaissez pas, c'est facile à lire, à 7,90€, le commander en poche, le lire en livre de poche, Animal de Sandrine Colette. J'ai vu combien elle en savait sur le comportement des ours lorsqu'ils ont faim au sortir de l'hiver et de l'hibernation. Ils ont perdu vraiment beaucoup, beaucoup de poids. Il faut absolument qu'ils se nourrissent et ce n'est pas toujours facile. Et que le tigre est le prédateur le plus dangereux du monde. C'est pour le dire et l'exprimer avec angoisse qu'elle a écrit ce roman Animal, qui met en scène deux mondes. Oui, ils étaient des loups, ils n'étaient pas... voilà, dans le premier roman, on était des loups. On voit que Liam est chasseur, mais on ne voit pas vraiment la chasse. Tandis qu'ici, dans Animal, on voit vraiment comment se comportent les hommes chasseurs et les animaux chassés, mais aussi chasseurs. Voilà. C'est pour ça que je tenais à lire, à vous parler de ce roman Animal de Sandrine Colette. Et c'est pour le dire, voilà, qu'elle met en scène deux mondes, l'un au Népal, au nord de l'Inde, où une folie des hommes, on n'a pas le droit de tuer des tigres, mais comment s'en protéger la nuit, lorsqu'ils chassent ? Eh bien, en mettant des enfants blessés et ligotés au tronc d'un arbre. Vous voyez bien la folie des hommes. Des enfants sacrifiés, bon, il y en a tant qui traînent dans les rues de Delhi ou d'autres villes, grandes villes indiennes, que bon, ce n'est pas trop grave. Servant et ses enfants sacrifiés servent d'appât. Et un personnage, Mara, une dame, qui vivait à la campagne, son mari est mort, et bon, elle entend des bruits de deux enfants qui ont peur, qui crient leur peur, Nune et Nine. Elle découvre ces deux enfants arrachés, ligotés sur un arbre, et donc elle va, malgré l'interdit, les libérer. Mais après, Nune et Nine, comment survivre à un tel traumatisme? Vous pensez bien que c'est terrible pour des enfants d'être une peur traumatisante. En attendant que les tigres ou le tigre viennent les mordre, les manger, les s'attaquer à eux vivants. Le deuxième monde, au milieu des volcans du Kamtchatka, voilà, le Kamtchatka, j'en avais entendu parler à cause des volcans, mais là, au milieu des volcans du Kamtchatka, j'ai débarqué qu'il y avait des ours, voilà, et qu'on venait, un groupe de chasseurs de 5 personnes qui vont tenter de chasser des ours. Il y en a plusieurs, il y en a un petit et puis un gros, mais le gros est plein de sagesse et sera le plus fort. Voilà. Alors parmi eux, ce qu'il dit, c'est deux mondes, le monde du Népal, de la folie de l'Inde, et puis le monde du Kamtchatka, eh bien c'est une jeune Française parmi eux, Lior, une Française et son mari Adrien. Ils aiment vraiment, mais ne se comprennent pas, parce que elle aime la chasse, elle est passionnée par la chasse. Quand elle chasse, elle semble alors partie prenante de la nature, douée d'un flair affûté, dangereuse. En fait, c'est une femme, c'est Nine, qui a été adoptée, oubliant son passé effrayant. Voilà, je vous laisse découvrir ça. Cette fois, ces chasseurs sont guidés par un vieil homme à la parole rare, et ils sont lancés sur les traces d'un ours. En fait, il y en avait deux, un petit qui est vraiment très mal en point parce qu'il n'arrive pas à se nourrir, mais un gros, un ours qui a 20 ans d'âge, va venir l'aider à s'enfuir, à s'échapper aux chasseurs en passant par une rivière. Voilà. Donc le vieil ours, bien sûr, les a repérés avec sa sagesse. Il a une sagesse fabuleuse que l'on découvre, des rouries, voilà, pour esquiver aux chasseurs et les entraîner au-delà de leurs limites, forçant Lior en particulier à affronter enfin la vérité sur elle-même. C'est elle qui sera blessée par le vieil ours qui l'avait vu depuis très longtemps. Mais elle va s'en sortir, et dans ce texte haut en couleur, Sandrine Colette décrit pleinement l'art de la chasse, tant du côté des hommes que du côté des animaux. Voilà, j'ai fini pour ces deux premiers livres. Et j'aborde le troisième, celui qui est en troisième position. J'ai parlé d'un retour sur la montagne, car en septembre, je vous en ai présenté plusieurs de qualité. Mais depuis, vient de paraître « La nuit des pères » de Gaël Josse. Notabilia, c'est l'éditeur. Une grande, grande découverte littéraire, Gaël Josse. Et cette nuit des pères, c'est un roman âpre et puissant qui se lit en apnée tant l'émotion, la justesse, et la poésie de son écriture sont fortes. Ça s'est tiré du livre, une réflexion faite par ce père, puisqu'on parle de la nuit des pères, par ce père. Tu ne seras jamais aimé de personne. Tu m'as dit ça un jour, mon père. Tu vas rater ta vie. Tu m'as dit ça aussi. Et de toutes mes forces, j'ai voulu faire mentir ta malédiction. Pourquoi et comment un père, pour ses propres enfants, peut-il se montrer aussi brutal, taiseux, invivable, provoquant la rupture? C'est un mystère dévoilé par Gaël Josse dans ce texte vif, un roman d'une intensité incroyable. Appelée par son frère Olivier, Isabelle, c'est l'héroïne, c'est elle qui parle, qui raconte. Isabelle rejoint le village des Alpes où ils sont nés. La santé de leur père, qui a été vraiment un grand guide de montagne, très apprécié, décline. Il entre dans les brumes de l'oubli. Vous savez, ces maladies terribles qui vous grignotent le cerveau, il entre dans les brumes de l'oubli. Après de longues années d'absence, Isabelle appréhende ce retour. C'est l'ultime possibilité, peut-être, de comprendre qui était ce père si destructeur, si difficile à aimer. Entre eux trois, pendant quelques jours, l'histoire familiale va se nouer et se dénouer. Donc on va en savoir plus sur ce père, sur eux, comme un vol des aigles au-dessus des sommets que ce père aimait tant, plane l'ombre de la grande histoire, car on va déboucher sur la grande histoire, celle de la guerre, oui. Car cet homme de la montagne a dû partir un jour loin de chez lui, c'était une obligation, pour aller en Algérie. Et y vivre un drame terrible. De quoi le murer dans le silence et la méchanceté. Je vous ne dévoile pas ce drame terrible dont il a été un témoin, dont il s'accusera d'ailleurs d'avoir été un témoin et de n'avoir pas arrêté ce viol. Voilà. Pour le reste de sa vie. Et par-delà les générations, parce que c'est vrai qu'il y a eu des drames au cours de ces événements d'Algérie, et bien peu de personnes en ont parlé. Voilà. Ce qui fait que les générations ont tendance à se murer sur la mort, les drames. Alors maintenant, je passe au quatrième roman qui s'appelle « Les chairs impatientes » de Marion Roucheux. Et si je vous présente ce livre, ce roman, c'est un roman, « Les chairs impatientes » de Marion Roucheux, qui vient de paraître chez Belfond, c'est que la montagne est un très beau lac servant de cadre à une histoire singulière. Elle est à la fois un lieu d'effervescence, une effervescence incroyable, et pour finir, un lieu de refuge véritable. 6 mois après la naissance de son deuxième enfant, une jeune femme médecin, qui est l'héroïne de cette histoire, quitte Paris pour aller en maison de repos au bord d'un lac de montagne. Avec son jeune fils de 2 mois, elle a tenté de sauter par la fenêtre. Heureusement, son mari, Antoine, était là, il a pu intervenir. Elle a une petite fille qui va à l'école, dont elle allait conduire à l'école et rechercher à l'école. Et elle a sa deuxième naissance, ce petit garçon qui a 2 mois, mais elle déprime complètement, elle n'arrive pas à s'en sortir, à se trouver. Donc elle avait failli se lancer par la fenêtre. Alors, Antoine va faire en sorte qu'avec un médecin, qu'elle parte dans une maison de repos, au bord d'un lac de montagne. On ne situe pas où ça se trouve. Ce pourrait être Assis, ce pourrait être Annecy, je ne sais pas, ce n'est pas désigné. Mais en tout cas, il y a de très belles montagnes et il y a un lac superbe. Et puis là, elle va retrouver le ski. Parce que avec son père, elle était une fine gamine, une fine skieuse. Et là, elle va retourner skier seule. Elle va se lancer sur une piste noire, terrible. Mais comme ça fait depuis longtemps qu'elle n'avait plus skié, elle va se casser la figure. Et heureusement, un homme va intervenir pour la secourir. Et puis, ils vont sympathiser et cet homme, réveiller son corps parce que elle ne voulait plus rien faire avec son corps. Et comme personne, même pas son mari Antoine, elle dit que ce qu'il a réveillé en elle est 1000 fois plus puissant que lui. Voilà. Mais c'est une liaison qui va se former entre les deux. Ils vont se retrouver dans un hôtel de montagne. Et puis une liaison forte, mais comme chacun appartient à un domaine différent, elle doit retourner à Paris, lui, il va rester dans ses montagnes, eh bien cette séparation sera vraiment très très douloureuse pour elle. Elle devra lutter avec ses sentiments contradictoires et ses cris, car elle ne peut en parler à son entourage. Dans une langue poétique et crue, Marion Roucheux, par ce récit, raconte un désir féminin dévorant, difficile à contenir. Et c'est en revenant péniblement, mais efficacement, vers ce lac et cette montagne qu'elle va parfois finir sans sortir. Voilà. Et donc on écoute une musique maintenant, une pause musicale avec, j'ai choisi Frédéric Chopin, un grand ami, et une valse, la valse numéro 2 de Frédéric Chopin. Là, elle a été interprétée par une pianiste que je connais, que j'adore depuis très longtemps, qui s'appelle Maria Joao Pires, une Espagnole. Thank you. Voilà, n'est-ce pas merveilleux que cette valse de Frédéric Chopin, jouée par la grande Maria Joao Pires, dont on reparle actuellement dans les médias parce que, après avoir eu quelques faiblesses, elle revient vraiment au meilleur d'elle-même. Alors le cinquième roman, c'est Le pays au-delà des mers, et c'est de Christina Baker-Klein, qui vient de paraître aux éditions Bellefond. Un grand roman de cette grande romancière Christina Baker-Klein, qui s'intéresse beaucoup, beaucoup aux femmes. C'est traduit de l'anglais, enfin des États-Unis, par Marie Kempf, et je le signale parce que vraiment on lit ce roman comme si c'était écrit en français, voilà. Surtout qu'il y a de la belle poésie dedans, et donc il fallait vraiment traduire cette poésie et donner les références de ces poèmes que l'on découvre ou redécouvre en lisant ce grand roman, avec ce grand roman de Christina Baker-Klein. Elle nous entraîne dans la Tasmanie coloniale de l'ère victorienne sur les traces de ces femmes soi-disant de mauvaise vie exilées par la couronne britannique. Au-delà des mers, vers l'Australie. Inspiré de faits réels, ce roman est une fresque inoubliable. Je vous le dis, quand vous allez la lire, la découvrir, eh bien c'est vraiment une fresque inoubliable. Les personnages principaux sont Evangeline, Hazel, Matina et à la fin, en dernière partie du roman, Ruby. Pour avoir naïvement cru aux promesses d'amour de son employeur, le jeune Whitston, Evangeline, jeune gouvernante anglaise, férue de poésie, une belle jeune fille, voilà, femme, fille, et pleine d'éducation, donc qui a été embauchée pour servir de gouvernante à deux enfants dans une grande famille anglaise. Elle a été accusée de vol d'un rubis offert par le jeune Winston, mais en secret, et elle l'avait mis dans le tiroir de sa commode, et puis il y a une employée jalouse qui voit ce rubis et qui la porte à la maîtresse, à la mère de ce jeune Winston. Et donc elle sera accusée de vol, parce que le jeune Winston est parti, donc elle n'a aucun moyen de se défendre. Et elle est condamnée à la déportation. Sur le navire qui l'emmène en terre australe, elle pense à ce que sera sa vie dans ce pays lointain, qu'on dit si inhospitalier, peuplé d'indigènes, de renégats. Elle pense aussi à l'enfant qu'elle porte, parce que de cette liaison avec le jeune Winston, elle a un beau fruit, elle porte un enfant. Saura-t-elle le protéger ? Pourra-t-elle s'appuyer sur la débrouillarde Hazel, autre personnage important de ce roman ? C'est une jeune écossaise, elle est vraiment jeune, mais elle est accusée d'avoir volé une cuillère en argent. Il y a eu des jalousies parce que cette jeune fille a été formée par sa mère, une très très bonne sage-femme et herboriste, donc elle est formée déjà à ce métier d'herboriste et elle possède des herbes qu'elle va pouvoir, au cours de la traversée, utiliser pour soigner des personnes malades. Donc, c'est vrai, cette Hazel est vraiment un personnage important. Et elle aidera, en effet, Evangeline à accoucher d'une petite fille qui sera appelée par la suite Ruby, en souvenir justement du rubis offert et soi-disant volé. Il y aura, à un moment donné, sur le navire, une algarade entre Hazel et Buck. Hazel est jolie, brune, une brune jolie, et le Buck, Buck est un soldat marin violent et qui veut la violer. Il est prêt à la violer lorsque Évangeline, qui entend des cris, interviendra pour la défendre et sera blessée au couteau. Il y aura une enquête qui montrera que c'était une légitime défense et sera arrêté. Malheureusement, enfin, il faut bien, le voyage est assez long et donc il sortira de prison et il voudra se venger et vous découvrirez comment il se vengera sur Évangeline. Et si Évangeline se laisse emporter par une furie dirigée contre Buck, mais aussi contre tous les marins et les gardes qui traitent ces femmes condamnées, les convières, je ne sais pas comment on dit, mais conviers, V-E-C-T-S, les conviers, ces femmes condamnées plus mal encore que du bétail. Et ceci montre bien la tension qui existait sur ce navire. Voilà pourquoi je le dis. Au même moment, sur l'île Flinders, au large de l'Australie, on retrouve le troisième personnage, Matina, qui est une orpheline aborigène. Elle aussi est retenue prisonnière, car elle a été arrachée à sa tribu. La petite a adopté par, je vous le dis, par le gouverneur et son épouse, des Anglais de bonne famille, de bonne souche, hein, le gouverneur et son épouse, qui entendent bien l'inciviliser à tout prix, lui assurant une éducation digne d'une princesse, pour bien montrer qu'une jeune arborigène noire, une jeune noire, avec une très bonne éducation, peut être égale à une princesse anglaise, donc mangeant, voilà, comme il faut, toute une éducation, avec un précepteur, et puis apprendre à danser, comme on danse à la cour, voilà. Mais l'origine de Matina, au cours de la danse, va émerger et montrer qui elle est vraiment. Voilà. Ça, vous le découvrez, bien sûr, en lisant ce grand, grand roman. Ces trois femmes l'ignorent encore, mais leur sort est inextricablement lié. Sur ces terres soumises à la folie des hommes, elles auront besoin de toute leur force, de tout leur courage pour survivre et se frayer un chemin vers la liberté. C'est bien ce que l'on trouve à la fin du livre. Oui, un super grand roman à lire et à relire tant il est riche d'observations et de poésie. Et je vais parler d'un sixième roman qui me tient à cœur aussi, parce que ça s'appelle « Partie italienne » de Antoine Choplin, qui vient de paraître chez Buchet-Chastel. Parce que je connais Antoine Choplin depuis quelque temps, déjà longtemps, et je suis heureux de le retrouver avec cette « Partie italienne ». Un récit qui se lit comme une comédie italienne, avec légèreté, mais aussi profondeur. Gaspard, qui est le héros de cette histoire, est un artiste reconnu, un grand plasticien et très sollicité. Il doit préparer une grande exposition à Paris. Pourtant, en ce début de printemps, il ne rêve que de quitter Paris et aller s'installer quelques jours sur le Campo dei Fiori de Rome. Là, à une terrasse de café, devant un jeu d'échecs, il joue contre des amateurs de passage. Et il savoure la beauté des jours. Nous aussi, lecteurs, nous sommes heureux d'être là à Rome avec Gaspard. Gaspard est intrigué par une statue installée sur cette place. Cette statue représente un moine. Il s'agit de Bruno Giordano, dont il fera la quête. Je vous laisse découvrir cette quête, si vous connaissez peut-être Bruno Giordano, mais sinon, vous le retrouverez qui était Bruno Giordano. Mais un jour, une femme belle et mystérieuse s'installe à sa table pour une partie. Elle s'avère être une adversaire redoutable et gagne très vite. Elle s'appelle Maria et vient de Hongrie. Alors, le séjour de Gaspard prend un tour inattendu. Ils apprennent à se connaître en dialoguant et en marchant dans Rome. Ils découvrent l'Italie et un ermite spécialiste des échecs. Cet homme s'appelle Vittorio, ce qui la relie à son grand-père, et ce Vittorio la relie à son grand-père, Simon Pape. Simon Pape était un grand champion d'échecs. Malheureusement, il a disparu, car assassiné par les Allemands en 1944. Certains avaient essayé, qui étaient de joueurs d'échecs, avaient essayé de l'épargner, mais ils n'ont pas pu, donc il a été assassiné. Et ce Vittorio, presque centenaire, vivant à Passantro dans les Abruzzes, l'heure dévoilera, ils iront le rencontrer, le retrouver, le rencontrer, leur dévoilera une partie justement mythique qui avait été jouée sur ce camp de la mort. Dans cette histoire, Antoine Chauplin nous invite à Rome à découvrir cette ville et son histoire dans le pas de deux personnages. C'est vrai que Gaspard et Maria voient tout avec un regard neuf, celui des premiers jours d'une rencontre amoureuse et qui se continuera, je peux vous le dire. Une rencontre amoureuse née sur l'échiquier avant de se déployer ailleurs, singulière, douce et profonde. C'est ce roman, c'est une très belle parenthèse italienne, une étonnante partie d'échecs qui ravira les amateurs, mais aussi, je peux le dire, ceux qui ne pratiquent pas cette activité fascinante. Voilà pour ce roman, sorte de comédie, comme j'ai dit, comédie italienne, partie italienne de Antoine Chauplin qui vient de paraître chez Blucher Chastel. Et je vous parle maintenant d'un roman policier, mais c'est beaucoup plus que ça. Septième roman. S'il n'était pas si fou. Voilà le titre qu'elle a choisi, qui dit bien qu'elle porte, c'est de Claire Raphaël, Rouergue noir, donc roman policier, mais Claire Raphaël, qui a écrit deux précédents grands romans, avec ce troisième livre, S'il n'était pas si fou, s'intéresse à un monde qu'on n'utilise pas souvent dans les romans policiers. Un domaine, une maladie. Oui, avec ce nouveau roman, Claire Raphaël aborde une maladie, la schizophrénie, très mal définie par la police, qui se veut rationnelle. Il y a une citation de Chesterton qui est citée au début du roman, de ce roman. Le prince Chesterton, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'était le prince du paradoxe, et qui affirme, un Anglais qui affirme, qu'un fou, c'est quelqu'un qui a tout perdu, excepté la raison. Un fou, c'est quelqu'un qui a tout perdu, excepté la raison. Ils ont une vie intérieure, mais invisible et déconcertante, avec perte de sens. Alors, dans ce roman, S'il n'était pas si fou, dans ce roman, avec cette intrigue, que fait la police lorsqu'une femme, Sabine Rougès, une femme déjà d'un certain âge, hein, qui a été mère, qui a eu une... est tuée d'un coup de feu dans la nuit, et que sa fille unique, Amélie, qui vient dîner chaque soir chez elle, est atteinte de schizophrénie. Et elle s'accuse du crime, mais elle décrit une scène incompatible avec les éléments recueillis par les enquêteurs, un groupe de 4 à 5 enquêteurs, Étienne, Caroline, Serge, placés sous la direction de Ludovic, un flic expérimenté. Là où les gens se croisent sans se connaître, lui va entrer dans des vies, rechercher des indices et remonter le fil des histoires jusqu'au point où un assassin appuie sur la détente. Et on pourra donc l'arrêter. Dans cette partie complexe, il y aura une nouvelle venue avec Alice qui va participer à l'enquête. Alice est ingénieure de la police scientifique. Et elle, c'est elle qui saura faire parler des armes et montrer que le tir n'a pas été en face, mais par derrière. Donc ça ne peut pas être Amélie, la fille unique, qui a pu tirer ce qu'elle prétendait, mais ce n'est pas elle. Et on va découvrir qu'il y a deux coupables possibles dans la suite de l'enquête. Et puis, cette Alice est intéressante parce qu'elle veut en savoir plus, elle veut s'approcher d'Amélie pour comprendre son comportement, son attitude. Et Alice, qui se retrouve orpheline, est internée dans une sorte d'hôpital, une maison. Et dans cet hôpital, il y a d'autres malades de la schizophrénie. Et ils ont formé un atelier d'écriture avec un médecin chef. Ils ont formé un atelier d'écriture et de poésie qui regroupe ces autres malades. Et donc, Alice va, parce que Amélie, bien sûr, va participer dans cet atelier d'écriture. Voilà, dans ce nouveau roman passionnant de Claire Raphaël, au plus près de la réalité du travail policier, qu'on voit très bien, on ne passe pas par-dessus, on le voit très bien, ce travail policier, qui vont comprendre qu'il y a au moins, je vous l'ai dit, deux coupables, deux possibles coupables de ce crime odieux. Mais aussi, le lecteur entre dans ce temps particulier où la folie brise toutes les apparences et la mort toutes les évidences. Alors, je vous lis quand même un poème collectif, le poème qui a été écrit par ces malades. Et c'est Alice qui est chargée de le lire. Alors voilà ce que dit ce poème collectif que je vous lis, qui se trouve donc dans ce roman « S'il n'était pas si fou » de Claire Raphaël, paru au Rouergue Noir. Sous le portique de pierre et de chair, d'un hôpital qui n'a pas de nom, car nous devons rester discrets, nous sommes si fiers d'être encore en vie. Nous sommes si heureux d'incarner la patience d'un peuple laborieux, fiers de son expérience, un peuple sacrifié, nourri par la souffrance, un peuple déchiré, par des désirs trop grands. Nos désirs sont trop grands pour un monde ordonné par les raisons bourgeoises. Nous sommes les patients d'un lieu qui nous console. On y entend des plaintes, on y croise des visages, des corps mal engagés aux accents mécaniques, des yeux dépareillés aux parfums psychotropes, des vies défigurées, des vies déracinées, des vies comme englouties par le bruit, la fureur des plus grandes tempêtes. J'arrête là cette lecture édifiante, mais qui vous permet bien de comprendre que ce roman de Claire Raphaël, S'il n'était pas si fou au Rouergue Noir, est peut-être mon coup de cœur de cette rentrée. Il me reste quelques minutes peut-être encore. Je peux alors juste vous parler d'un livre qui a été pris des libraires. Il s'agit de Liv Maria, le nom de l'héroïne splendide qui va connaître un destin incroyable, Liv Maria de Julia Kerninon, qui est paru en livre de poche, en format, en folio, dont vous pouvez le lire si vous ne l'avez pas déjà fait. Prix des libraires, Liv Maria de Julia Kerninon. Absolument bouleversant, épique et palpitant, née sur une petite île bretonne, Liv Maria Christensen grandit avec son père au milieu des livres. Voilà pourquoi il est important de lire ce livre, nous qui aimons les livres. À 17 ans, parce qu'elle devient une belle jeune fille et qu'elle attire des hommes, elle est envoyée par sa mère à Berlin pour séjourner chez une jeune tante qui a deux enfants, donc elle pourra servir de babysitter. Le temps d'un été, parce qu'elle n'est pas, elle va pas y aller très très longtemps, mais le temps d'un été. Et elle va faire une rencontre, celle de Fergus, qui bouleversera le cours de son existence. C'est un Irlandais qui est marié, qui a des enfants, et qui vient comme ça travailler pour apprendre l'anglais. C'est ça, il est là ici pour apprendre l'anglais. Et c'est comme ça que Liv Maria le rencontre. Voilà. À découvrir, à lire et à découvrir, Éprise de liberté, elle deviendra, cette Liv Maria Christensen, une amoureuse, une aventurière au Chili, une libraire, une mère et connaîtra mille vies. Mais laquelle est véritablement la sienne ? Alors voilà, c'est vrai que Julia Kerninon brosse le portrait éblouissant d'une femme qui, malgré un secret inavouable parce que l'homme repartira en Irlande, elle reviendra sur son île bretonne, et elle ne peut pas en parler parce que, en fait, cet homme a abusé d'elle. Bon, je n'en dis pas plus. Mais elle cherchera sans cesse à réécrire son histoire. Alors, c'est vrai que nous sommes attirés, en suivant cette Liv Maria, au Chili, où elle va partir au Chili, sur cette île bretonne déjà, et puis au Chili, parce qu'elle va devoir quitter cette île bretonne. À la mort de ses parents, elle vient y vivre un moment, mais elle devra après repartir ailleurs, et elle va connaître la grande aventure au Chili. Et quand on regarde sur une carte le Chili, on comprend qu'il y a à gauche le Pacifique et à droite l'Argentine, et il y a de quoi faire sur cette île, sur cette terre qu'est le Chili. Et puis elle reviendra libraire, et puis elle connaîtra Flynn, et puis elle va se marier avec lui, donc partir en Irlande, au sud de l'Irlande, à Lismore, pas très loin de Cork, voilà, et puis on revient aussi, donc on fait des allées et venues, mais c'est vrai que c'est un très très bon roman d'aventure, et plus que ça, voilà. Et je vous dis... Eh bien oui, puisque j'ai parlé d'Irlande le mois prochain, je vous reparlerai aussi d'Irlande, car j'ai déjà deux autres livres sur l'Irlande dans le collimateur. Voilà, je peux vous dire donc au revoir, bonne lecture. Avec tous ces livres, j'en fais beaucoup, mais voilà. Il y en a pas mal, il y en a deux, au moins deux, Sandrine Colette, Animal, et puis Julia Kerninon, Liv Maria en folio, donc ils sont livres de poche, mais le Gaël Josse aussi, La Nuit des Pères n'est pas en poche, c'est chez Netablia, mais il n'est pas trop gros, mais vous le lirez avec... Je connais des gens qui aiment beaucoup les romans policiers, eh bien je peux vous dire qu'ils ont lu... La Nuit des Pères, qu'ils ont été très sensibles à l'écriture de Gaël Josse. Voilà, à bientôt, au mois prochain. Au revoir. Vous écoutez Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, pour son émission au Café littéraire.